voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Academy. La rubrique L'auteur caché vous propose de découvrir un auteur célèbre qui fut académicien. Et pour ce faire, je me propose de vous donner 10 indices biographiques. Le comédien Fernand Guillot, avec moi dans ce studio, vous lira 10 extraits. Et en moins de 10 minutes, vous aurez trouvé le nom de notre auteur caché. Vous êtes prêts ? Premier indice. Notre auteur caché est né le 29 juillet 1805. Il appartient donc au XIXe siècle et portant le titre de comte, il est issu d'une famille noble qui avait échappé de peu à la guillotine en s'exilant en Angleterre. Sous l'Empire, sa famille est rentrée en France. Sous la Restauration, notre auteur commence des études de droit et devient magistrat, mais c'est en opposition aux idées traditionnelles de son milieu familial qu'il forge sa pensée et surtout en se rendant en voyage d'études aux États-Unis en 1831. Deuxième indice, durant les 9 mois qu'il passe aux États-Unis, dont la Constitution a été acceptée le 17 septembre 1787, il observe cette toute jeune démocratie naissante, elle existe depuis à peine 50 ans, lorsqu'il y est envoyé pour étudier le système pénitentiaire. Troisième indice, en fait, aux États-Unis, il examine attentivement les rouages de la vie politique et de la démocratie. C'est un peu trop facile, hein, les indices, maintenant on va savoir tout de suite. Il en tirera la matière d'un grand ouvrage historique, « De la démocratie en Amérique », œuvre fondatrice de la pensée de notre auteur, parue en 1832. Alors voici, lu par Fernand Guillot, un extrait de l'introduction de cet ouvrage célèbre.
Une grande révolution démocratique s'opère parmi nous. Tous la voient, mais tous ne la jugent point de la même manière. Les uns la considèrent comme une chose nouvelle, et, la prenant pour un accident, ils espèrent pouvoir encore l'arrêter. Tandis que d'autres la jugent irrésistible, parce qu'elle leur semble le fait le plus continu, le plus ancien et le plus permanent que l'on connaisse dans l'histoire. Lorsqu'on parcourt les pages de notre histoire, on ne rencontre pour ainsi dire pas de grands événements qui, depuis 700 ans, n'aient tourné au profit de l'égalité. Les croisades et les guerres des Anglais déciment les nobles et divisent leurs terres. L'institution des communes introduit la liberté démocratique au sein de la monarchie féodale. La découverte des armes à feu égalise le vilain et le noble sur le champ de bataille. L'imprimerie offre d'égales ressources à leur intelligence. La poste vient déposer la lumière sur le seuil de la cabane du pauvre homme, comme à la porte des palais. Le protestantisme soutient que tous les hommes sont également en état de trouver le chemin du ciel. L'Amérique, qui se découvre, présente à la fortune 1000 routes nouvelles et livre à l'obscur aventurier les richesses et le pouvoir. Si à partir du XIe siècle vous examinez ce qui se passe en France de 50 en 50 années, au bout de chacune de ces périodes, vous ne manquerez point d'apercevoir qu'une double révolution s'est opérée dans l'état de la société. Le noble aura baissé dans l'échelle sociale, le roturier s'y sera élevé. L'un descend, l'autre monte. Chaque demi-siècle les rapproche, et bientôt ils vont se toucher. Et ce n'est pas seulement particulier à la France. De quelque côté que nous jetions nos regards, nous apercevons la même révolution qui se continue dans tout l'univers chrétien.
Vous l'avez compris, c'est le quatrième indice que je vais vous donner. Notre auteur s'appuie sur les faits historiques et sur l'évolution de l'histoire pour annoncer le triomphe inéluctable de la démocratie. Et il n'est pas loin d'affirmer que c'est de cette manière que s'exprime la volonté divine.
Partout, on a vu les divers incidents de la vie des peuples tourner au profit de la démocratie. Tous les hommes l'ont aidé de leurs efforts, ceux qui avaient en vue de concourir à ses succès et ceux qui ne songeaient point à la servir, ceux qui ont combattu pour elle et ceux-mêmes qui se sont déclarés ses ennemis. Tous ont été poussés pêle-mêle dans la même voie et tous ont travaillé en commun, les uns malgré eux, les autres à leur insu, aveugles instruments dans les mains de Dieu. Le développement graduel de l'égalité des conditions est donc un fait providentiel. Il en a les principaux caractères. Il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine. Tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement. Serait-il sage de croire qu'un mouvement social qui vient de si loin pourra être suspendu par les efforts d'une génération? Pense-t-on qu'après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la démocratie reculera devant les bourgeois et les riches? S'arrêtera-t-elle maintenant qu'elle est devenue si forte et ses adversaires si faibles? Où allons-nous donc? Nul ne saurait le dire, car déjà les termes de comparaison nous manquent. Les conditions sont plus égales de nos jours parmi les chrétiens qu'elles ne l'ont jamais été dans aucun temps ni dans aucun pays du monde. Ainsi, la grandeur de ce qui est déjà fait empêche de prévoir ce qui peut se faire encore.
Cinquième indice, c'est donc une révolution paisible, calme, mais irrésistible, comme il le dit lui-même, qu'observe notre auteur. Mais il demeure lucide, il perçoit les dangers de l'égalité pour la liberté individuelle.
Le despotisme me paraît particulièrement à redouter dans les âges démocratiques. Dans les siècles d'égalité, chaque individu est naturellement isolé. Il n'a point d'amis héréditaires dont il puisse exiger le concours, point de classe dont les sympathies lui soient assurées. On le met aisément à part et on le foule impunément aux pieds.
Sixième indice, grâce à cet ouvrage, qui a d'ailleurs été couronné du prix Montyon décerné par l'Académie française, notre auteur est désormais un avocat célèbre. Il est en 1837 décoré de la Légion d'honneur. Il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques, laquelle vient juste d'être restaurée en 1832. Et enfin, le 23 décembre 1841, il entre à l'Académie française, au fauteuil 18, succédant à un homme politique, le comte Lacuët-Séssac. Il n'a que 36 ans. Faut-il qu'il soit considéré pour entrer si jeune dans cette noble institution? Septième indice, notre auteur défend deux libertés qui lui paraissent essentielles. La liberté de la presse, tout d'abord. Écoutez-le.
Pour garantir l'indépendance personnelle, je ne m'en fie point aux grandes assemblées politiques, aux prérogatives parlementaires, à la proclamation de la souveraineté du peuple. Toutes ces choses se concilient, jusqu'à un certain point, avec la servitude individuelle. Mais cette servitude ne saurait être complète si la presse est libre. La presse est, par excellence, l'instrument démocratique de la liberté.
Autre liberté essentielle, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Écoutez ce qu'il en dit.
La force des tribunaux a été de tout temps la plus grande garantie qui se puisse offrir à l'indépendance individuelle. Mais cela est surtout vrai dans les siècles démocratiques. Les droits et les intérêts particuliers y sont toujours en péril si le pouvoir judiciaire ne grandit et ne s'étend à mesure que les conditions s'égalisent.
Huitième indice, remarquons toutefois que la démocratie que notre auteur caché appelle de ses vœux est une démocratie chrétienne. Il s'en explique ainsi.
Le christianisme qui a rendu tous les hommes égaux devant Dieu ne répugnera pas avoir tous les citoyens égaux devant la loi.
Neuvième indice, notre auteur a entamé une carrière politique se présentant comme député de la Manche en 1839, un siège qu'il conservera durant 12 ans. Au Parlement, il défendra des positions en faveur des libertés, contre l'esclavage et même contre les excès du colonialisme. Après la chute de la monarchie de Juillet, il sera élu à l'Assemblée constituante en 1848. Il sera l'un des rédacteurs de la Constitution favorable au bicamérisme et à l'élection du président de la République au suffrage universel. En 1849, il acceptera le poste de ministre des Affaires étrangères, mais seulement durant 6 mois, après le coup d'État du 2 décembre 1851 par Louis-Napoléon Bonaparte, auquel il est opposé et qui le fera incarcérer à Vincennes, il quittera la vie politique. Dixième et dernier indice, retiré dans le château qui porte son nom, notre auteur se consacre sur ces dernières années à la rédaction d'un autre ouvrage politique sur l'Ancien Régime et la Révolution. Alors, ultime indice, mais vous avez certainement déjà trouvé son nom, il y a tout juste 150 ans que notre auteur est mort, de tuberculose d'ailleurs, à 54 ans, le 16 avril 1859. Vous avez trouvé ? C'était un peu facile, hein, parce que je vous ai donné le titre de son ouvrage le plus célèbre dès le troisième indice. Il s'agissait bien sûr d'Alexis Charles Henri de Tocqueville. Merci à Fernand Guillot d'avoir assuré les lectures de cette émission. Il existe d'autres émissions auteurs cachés à découvrir sur canalacadémie.com et d'autres émissions consacrées à Tocqueville aussi.